Radio Kapi.
Oh, Kapi.
S'attaquer à des personnes, aux humanitaires, aux partenaires de la MONUSCO, c'est se tromper de cible. Appel de Modeste Bakwanama, notable et ancien maire de la ville de Beni, à la population de ce coin du pays, face aux appels à la vindicte populaire en rapport avec l'occupation des quelques agglomérations par des rebelles. Éléments à suivre en ouverture de ce journal. Après près de 6 mois de léthargie, les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji connaissent un coup de pouce et le gouvernement rassure que cette fois-ci c'est la bonne jusqu'à l'exécution totale de ce grand projet dont les travaux prendront en principe 24 mois. Le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Dr. Mateus Kangalondimo, va intervenir en fin de ce journal. Il est invité, il donne des voies et moyens pour une collaboration sincère entre l'exécutif et le législatif dans la province de la Tchopo. Sous peu, nous vous déroulons les autres contours des divers faits d'actualité au pays en dehors de la RDC. Et c'est dans cette édition investorale sur Radio Capi, en vous souhaitant excellentes conditions d'écoute et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, des actes de violence par justice populaire et des appels à manifester sont signalés à Beni, Butembo et Lubero. Ces appels font suite à l'occupation par les rebelles du M23 de certaines agglomérations du territoire de Lubero. Certains groupes de jeunes s'attaquent à des particuliers et même à des humanitaires. À Beni, une marche dite pacifique est par ailleurs annoncée pour ce vendredi. Modeste Bakwanama, notable et ancien maire de la ville de Beni, appelle la population à ne pas suivre ses appels à manifester et dire non à la violence. Il estime que s'attaquer à des personnes, aux humanitaires ou aux partenaires de la MONUSCO, c'est se tromper de cible. Modeste Bakwanama est au micro de Joël Bofengo.
Les appels à manifester sont contre presque tout le monde dans la zone. Vous avez suivi ce qui s'est passé le 29 à Butembo. Les manifestants se sont appris à un billet privé, un hôtel. Dans le Lubero, ils ont même incendié certains véhicules. Des humanitaires, s'ils s'apprennent à la MONUSCO, c'est que c'est la série des manifestations. Et nous voulons appeler à nos concitoyens que ces appels à manifestation, par moment, débouchent sur des bêtes de sang. Et ce qui est mauvais. À Butembo, nous avons regretté, déploré qu'il y ait même un échange de tirs entre nos forces et la population. Ce qui ne peut pas donner résultat. L'ennemi est au sud, nous battons ici vers le nord, ça n'a pas de sens. Donc, ceux qui veulent qu'on s'apprenne aux gens, à la MONUSCO, à l'armée, à la police, aux autorités, au biais des privés, aux humanitaires, ces gens-là sont en train de se tromper de cible. S'apprendre à certains partenaires du gouvernement, ça serait se tromper de cible, d'ailleurs donner la chasse à l'ennemi de nous trouver en train de nous battre.
Nous restons dans la province du Nord Kivu, cette fois-ci dans le territoire de Lubero. 25 militaires, dont 2 capitaines des FRDC, ont été condamnés à la peine de mort et 2 autres à 10 ans de prison ferme, mercredi par le tribunal militaire de garnison de Butembo. C'était au cours d'une audience foraine organisée à Limbongo, un village situé à environ 100 km de Lubero centre. Ces militaires sont reconnus coupables, entre autres, des fuites devant l'ennemi, des violations des consignes et du pillage. Les détails avec André Kitenge.
C'est tard mercredi soir que le tribunal militaire a prononcé son jugement après une journée d'audience en flagrance. Parmi les 27 militaires, dont 2 officiers poursuivis par la justice, 25 ont écopé de la peine de mort pour fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, violation des consignes et pillage. 2 autres soldats sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Les condamnés étaient déployés sur le front nord entre les villages de Kaseye et Alimbongo, où les FRDC se battent contre les rebelles du M23. La justice leur reproche d'avoir battu en retraite. Par ailleurs, 4 épouses de militaires qui étaient également jugées pour recel de vol ont été acquittées faute de charges. Signalons que depuis 2 jours, la société civile dénonce le comportement de certains militaires qualifiés de fouillards dans le territoire de Lubero. Ils ravissent, selon cette structure citoyenne, les maigres biens des déplacés qu'ils arrivent à emporter avec eux, notamment leur bétail. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
La situation est devenue calme après des violentes manifestations dans la matinée ce jeudi de la part des déplacés des guerres au quartier Mugunga. Nous sommes toujours dans le Nord Kivu. Selon les sources contactées sur place, ces déplacés qui barricadaient la route protestent contre l'insécurité et exigent une assistance humanitaire. Bernard Nyangi.
Entre 7h et 9h locales, le trafic routier est resté coupé sur la route nationale numéro 2 Gomasaki, ainsi que sur la route secondaire menant à Rusayo Dalenyiragongo, au niveau de l'entrée école du cinquantenaire au quartier Mugunga. Les déplacés de guerre vivant dans un site spontané dans les environs ont placé des barricades sur ce tronçon routier. Les premiers témoignages révèlent que les déplacés protestent contre l'insécurité dans leur site. Hier mercredi, des présumés éléments d'une patrouille militaire auraient arrêté un des leurs et ravi plusieurs biens appartenant à des déplacés. De plus, ces manifestants exigent une assistance en eau et en vivres. Ils ont même bloqué et vidé deux camions citernes des humanitaires qui acheminaient de l'eau au camp de Rusayo dans le Nyiragongo. Le chef du quartier Mugunga indique qu'une équipe mixte FRDC Police déployée sur place a réussi à rétablir l'ordre et à dégager les deux accès routiers. Ce cadre de base reconnaît que la situation reste toutefois tendue dans cette zone où, dans la même nuit dernière, un autre déplacé a été tué par des hommes armés inconnus dans le site de Lushagala, ouest du quartier Mugunga. Goma, Bernard Dengang, Radio Okapi.
Parlant des violations des droits de l'homme dans l'est du pays, le président de la CNDH a fait part à la première ministre de son intention de saisir les instances internationales pour rendre justice à la RDC. Conduisant hier mercredi une délégation de son institution, Paul Nsapu et ses collaborateurs ont fait un tour d'horizon sur les conditions de fonctionnement difficiles de la Commission nationale des droits de l'homme et sur des questions touchant aux valeurs de dignité humaine à cause de la situation d'invasion par des forces négatives. Voici le compte-rendu fait au terme de cet échange dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays où notre pays, la RDC, est attaqué. Et on a parlé de toutes ces questions-là puisque la diplomatie de droits de l'homme peut aussi contribuer, en passant par la diplomatie classique, à décanter beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays, nous devions nous mettre, accorder nos violons avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle.
18h07 à Kinshasa, nous entamons la deuxième partie de ce journal qui part du Kananga où le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, ITPR, a lancé mercredi à partir de la commune rurale de Matamba le début des constructions et d'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji. Ces travaux s'exécutent grâce au contrat sino-congolais revu à travers un avenant signé entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises JEC. L'axe Kalambambouji fait partie des routes prioritaires qui ont été ciblées. François Kadima nous fait le point.
Ces travaux s'étalent sur 24 mois et environ 20% des fonds sont déjà disponibles, a indiqué le ministre des ITPR. Alessi Guissaro souligne que cette fois-ci c'est la bonne pour cette route d'intérêt économique pour l'espace Kasaï. Les fonds sont déjà disponibles et sécurisés dans nos banques. Nous avons déjà mobilisé 40 millions de dollars américains pour ces travaux. Cela équivaut à 20% sur le coût total du montant alloué au projet. Du côté des groupes d'entreprises chinoises, l'on assure que les engins sont déjà mobilisés pour l'exécution de ce travaux.
Nous avons déplacé les engins nécessaires de Kolwezi, Didiof et de Kinshasa pour assurer le déroulement ordonné du projet. Comme le projet est situé à l'intérieur du pays, les routes existantes présentent de nombreuses défectuosités, sont difficiles à franchir.
Les mêmes travaux avaient été lancés en 2022 par le chef de l'État et n'ont pas évolué faute de financement. De plus de 200 km, la route Kananga-Kalambambouji facilite les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Elle permet d'accéder à l'océan Atlantique à partir du port de Lobito. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Actualité en rapport avec l'agriculture. Le programme national de développement agricole sera incessamment lancé dans le territoire de Sekebanza au Congo central. C'est dans ce cadre qui s'est tenu en début de cette semaine un atelier de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes du programme national de développement agricole. Selon Crispin Lumbombo, facilitateur expert national en développement social au sein du programme national de développement agricole, cette rencontre a pour objectif d'informer les parties prenantes des dispositions à prendre en cas de problème pendant l'exécution du dit programme. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Ce programme national de développement agricole est financé par la Banque mondiale. Il vise l'augmentation de la productivité agricole des petits agriculteurs et cible les trois provinces, dont le Congo central, les Kwilu et les Kasaï central. Au Congo central, les territoires concernés sont Luozi, Lukula et Sekebanza. C'est pour le bon déroulement de ces projets, avoir des résultats escomptés et garantir la paix sociale que s'est tenu durant 2 jours cet atelier de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes du PNDA. Un comité du mécanisme de gestion des plaintes, bien équipé des stratégies de médiation et de résolution de conflits, composé de 7 membres, a été mis en place. Crispin Lumbombo, facilitateur et expert national en développement social au sein du PNDA, explique les bien fondés de cet organe.
On évite lors de la mise en œuvre du projet qu'il y ait des interprétations. C'est pour cette raison-là qu'on met en place un mécanisme de gestion des plaintes qui met en place un certain nombre de principes que les parties prenantes vont suivre pour permettre à ce que tout soit traité d'abord à l'amiable à l'intérieur du programme.
Signalons que 25 acteurs, parmi lesquels l'administrateur du territoire de Sekebanza et les responsables des différentes structures de la société civile locale, ont participé à cet atelier. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
En plus bref, financement de la recherche scientifique pour le développement de la RDC, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a conféré mercredi dans son cabinet de travail avec le ministre de la recherche scientifique, Gilbert Kabanda. Au menu de leur échange, l'impératif de financement des projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la RDC en corrélation avec les 6 défis à relever par le président de la République. Au terme de leur échange, le professeur Jacques Joly et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kindelo, pour le même plaidoyer. Sud Kivu, à présent, environ 400 ménages sont sans abri dans 4 avenues du quartier Nyalukemba dans la commune d'Ibanda après l'incendie qui a décimé des maisons. Le feu s'est déclaré hier pendant la journée jusque tard dans la soirée sans aucune intervention. Jean Kassami nous en parle.
Le feu a même consumé des infrastructures publiques comme les écoles et les églises dans les avenues Hewa Bora, Evariste Baganda, Irambo 2 et Albert Kayabo 5. Le maire de Bukavu, qui s'est rendu sur les lieux, déplore la gravité de l'incendie. Zeno Karumba atteste que le camion anti-incendie de la commune d'Ibanda a tenté de venir au secours, mais l'équipe n'a pas réussi à trouver de passage.
Il n'y a pas de route. Vous allez intervenir par les véhicules anti-incendie, sans route. Il n'y a pas de route. Elle est en construction par les fonds sociaux. Là, il y a 4 pots détruits qu'on est en train de réfectionner. Il n'y a pas de passage pour l'anti-incendie. Le véhicule anti-incendie que l'honorable Bachi Lukwebo avait laissé à la ville de Bukavu a été distribué par commune. Donc chaque bourgmestre a eu un véhicule anti-incendie. La mairie n'a rien comme véhicule anti-incendie.
Les familles sinistrées observent impuissants en attente de mains secourables car ayant tout perdu. Le bourgmestre de la commune d'Ibanda a remis ce jeudi quelques sacs de farine et du sucre aux sinistrés pour préparer la bouillie aux plus vulnérables. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, dans le Kasaï oriental, début mercredi d'une série de formations sur l'égalité des sexes, l'engagement communautaire et la redevabilité en nutrition. Ces formations sont organisées par le Programme alimentaire mondial, PAM, en faveur des membres de la société civile, les partenaires étatiques, des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies dans le but de valoriser l'égalité des sexes dans les activités en nutrition. Des explications d'Esther Dalafina.
Selon les constats effectués dans quelques centres nutritionnels, 5 femmes sur 10 et 7 enfants sur 10 souffrent de la malnutrition. Très peu, soit un homme sur 10, se retrouve malnutri. Au cours de la formation organisée ce mercredi en Mbujimayi par le PAM, les participants ont donné quelques causes liées à la malnutrition. C'est notamment l'existence des tabous alimentaires en direction des mères et des adolescentes, la non-prise en compte de la dimension genre et l'accompagnement insuffisant des hommes. Dans le cadre de la communication pour le changement de comportement sur des questions nutritionnelles, Prosper Bété, chargé de protection au PAM, s'est apesanti sur l'engagement de toutes les couches de la communauté. Rose Mbouyi, présidente de la société civile Les Forces Vives, prévoit de mener des sensibilisations auprès des communautés.
Nous allons pouvoir sensibiliser les hommes et les femmes pour que vraiment qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes par rapport à la nutrition.
C'est le cas de Jean-Marie Kachila, journaliste à la radio-télévision Océan Pacifique qui envisage d'utiliser son micro pour sensibiliser la communauté.
Donc je vais utiliser le micro, la télévision pour faire une forte vulgarisation.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef de la diplomatie tunisienne Nabil Amar a appelé clairement et haut et fort à arrêter le génocide à Gaza et à reconnaître les droits du peuple palestinien lors d'un discours prononcé au siège de l'ambassade américaine à Tunis à l'occasion de la fête de l'indépendance des États-Unis célébrée le 4 juillet de chaque année. Il est de notre devoir de s'exprimer clairement et haut et fort sur ces questions, a-t-il martelé, rappelant que la lutte contre le colonialisme, le racisme, la liberté et la justice pour tous les peuples sans distinction de race ou de religion avait été à l'origine du partenariat entre la Tunisie les États-Unis. Et au Gabon, la brouille entre la Banque mondiale et le gouvernement semble avoir été résolue. À en croire le communiqué du ministère des Comptes publics paru mercredi, le pays a procédé au paiement de ses arriérés de plus de 17 millions de dollars auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement le 2 juillet dernier. Un paiement qui intervient après qu'une note du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre annonçant la suspension des décaissements en faveur du Gabon pour cumul d'arriérés avait fuité sur les réseaux sociaux.
L'invité.
Nous recevons comme invité de ce journal le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Dr Mateus Kangalondimo. Avec Jacques Moukonkole, il aborde divers aspects des activités parlementaires de cette province et quelques principes à observer pour une cohabitation sincère et non conflictuelle avec l'exécutif afin du décollage de la province de la Tchopo. Suivez.
Docteur Mateus Kanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La session ordinaire de mars 2024 venait de se clôturer. Quel bilan pouvez-vous en établir?
Oui, merci beaucoup. La session de mars a été clôturée le 28 juin 2024. C'est un bilan plus ou moins satisfaisant parce que c'est la totalité des matières prévues. Nous avons pu traiter les deux tiers des matières au-delà des activités extra-parlementaires qui consistaient notamment à l'audition des candidats gouverneurs et sénateurs où nous avons eu plusieurs séances durant 3 jours. Durant la même session, nous avions élu notamment les sénateurs et les gouverneurs. Et aussi, nous avons mis en place les différents organes de l'Assemblée provinciale. Toutes ont été mises en place. Et au-delà de ça, nous avons joué durant cette session les rôles qui nous sont dévolus par les textes légaux, notamment celui de légiférer. Nous avons voté un édit portant création, organisation et fonctionnement de la fonction publique provinciale. Nous avons plusieurs moyens de contrôle ont été initiés par les honorables députés provinciaux et traités, notamment 5 moyens de contrôle qui ont consisté aux questions orales adressées aux ministres provinciaux. D'autres préoccupations également qui ont été traitées, notamment celui de représenter la population. Et puis, les bureaux a eu beaucoup d'autres activités. Donc, si les 100% de matières prévues, des tiers, soit plus de 70%, ont été traités.
Monsieur le Président, pourquoi dites-vous que vous êtes à moitié satisfait?
Je suis à moitié satisfait parce que mon vœu le plus ardent, c'était que nous puissions traiter les 100% des matières prévues. Mais nous avons eu notamment certaines contraintes qui ne nous ont pas permis. D'abord, les contraintes du temps et des matières prévues qui étaient énormes, mais aussi les contraintes d'ordre financier parce que nous avons des difficultés d'ordre financier qui ne nous ont pas permis de programmer certaines matières parce que les travaux en commission coûtent énormément cher. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis à moitié satisfait parce que la barre était hautement placée. Nous n'avions pas pu atteindre cette barre.
Monsieur le Président, lors de sa prise de fonction samedi dernier, le gouverneur de province a déclaré ne pas vouloir se constituer un obstacle pour le décollage de la province de la Tchopo. Pour cela, il ne créera aucune crise avec les autres institutions, notamment l'Assemblée provinciale. Comment avez-vous reçu ce message?
C'est un message que nous avons bien reçu parce que nous nous sommes dit que le gouverneur a aussi compris notre message. Vous savez, même nous-mêmes, quand nous étions élus, notre vision était centrée sur la stabilité des institutions provinciales, gage du développement de la Tchopo. Et quand le gouverneur s'inscrit dans cette logique-là, nous ne pouvons que saluer avec espoir que ça ne restera pas des simples intentions, des bonnes intentions, mais nous allons tous mettre cela en pratique au travers d'une bonne collaboration entre les deux institutions pour le développement de notre province parce qu'on ne peut pas espérer au développement là où il y a des institutions instables, là où il y a la guerre indéfinie entre les autorités provinciales, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. On ne peut pas espérer au fait au développement. C'est dans cette optique-là que nous avons pu saluer et nous faisons croire que nous, déjà nous sommes inscrits dans ces schémas-là, nous allons de ce fait cheminer ensemble avec le gouverneur qui aussi voudrait assez que nous puissions travailler en collaboration.
Les députés provinciaux, c'est trouvent présentement en vacances parlementaires. Chacun est allé dans sa base. Qu'attendez-vous d'eux à leur retour?
D'abord, nous leur avons demandé d'aller restituer ce que nous avons pu faire pendant cette première session de la troisième législature, la session de mars, et aussi aller communier avec la base, savoir leurs problèmes, récolter leurs déshydratats, envie de faire rapport à l'issue de leurs vacances.
Bientôt, le gouverneur des provinces va venir à l'Assemblée provinciale présenter les membres de son gouvernement. Quelles recommandations pouvez-vous par rapport aux priorités des priorités, sachant que tout est prioritaire dans cette entité, et par rapport même à la composition de son gouvernement?
Bon, d'abord, par rapport à la composition du gouvernement, tout est défini par la Constitution, où les membres du gouvernement, l'équipe ne doit pas dépasser 10. Notre vœu serait aussi que le gouverneur puisse respecter ces dispositions de notre Constitution qui limitent le nombre de membres de son équipe à 10. Et au-delà de ça, pour les priorités, je crois que les priorités pour la province de la Tchopo-Sankoni. Actuellement, la province traverse des moments difficiles, suite notamment aux conflits communautaires Lengolambole, et cette menace du M23 de Corné Nangaïsna en train de menacer pratiquement la province de la Tchopo. Donc la première priorité, c'est la sécurité, que le gouvernement provincial inscrive la sécurité parmi ses priorités des priorités, parce que la population de la Tchopo a besoin de la paix. La deuxième priorité sera notamment les infrastructures de base, entre autres les routes, et aussi bien au niveau de la voirie urbaine que les routes des dessertes agricoles. Et au-delà de ça, il y a notamment cette question de l'énergie. Avec cette problématique de l'électricité dans la ville de Kisangani. Si le gouverneur réussit déjà ces trois chantiers, je pense que ce sera une bonne chose.
Dr Mateus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ce journal. Mise en onde par Pierre Dersinois et présentation de Billy Yvan Lotumba.